Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Alia Tovin, Paloma Soria Brown, Ise Tsikar et Thibaut Affring. À la réalisation, Jean-Christophe Francis. À la technique, Nicolas Delmas.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Souvenez-vous, en 2019, la France enregistrait la plus forte baisse du chômage depuis la crise de 2008. Le gouvernement se félicitait alors de ses créations d'emplois qui auguraient d'un avenir plus souriant. Entre-temps, l'épidémie de coronavirus est arrivée en Europe et près d'un tiers des salariés français ont été placés au chômage partiel. Un dispositif qui pourrait toutefois ne pas suffire à empêcher la destruction de centaines de milliers d'emplois. Alors comment éviter une explosion du chômage ? C'est la question et l'espoir qui nous animent aujourd'hui. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure fébrile d'Entendez-vous l'écho. Nous allons pénétrer dans un marché de l'emploi perturbé en compagnie de nos deux invités. Bonjour Alexandra Roulet.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur d'économie à l'INSEAD, l'Institut Européen d'Administration des Affaires. Avec nous également Didier Demazière. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du chômage longue durée. Un grand merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Dès les jours à venir, un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel sera mise en œuvre. Des premières annonces ont été faites par les ministres. Nous irons beaucoup plus loin. L'État prendra en charge l'indemnisation des salariés contraints à rester chez eux. Je veux en la matière que nous inspirions de ce que les Allemands ont su par exemple mettre en œuvre avec un système plus généreux, plus simple que le nôtre. Et donc nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour donner cette garantie sur le plan économique.
Emmanuel Macron, le 12 mars dernier, quelques jours avant le début du confinement, ce dispositif de chômage partiel a été massivement utilisé par les entreprises, Alexandra Roulet.
Il a été massivement utilisé par les entreprises. Il faut souligner que la majorité des pays européens ont aussi mis en place ces mesures de chômage partiel. Et c'est des mesures qui sont des très bonnes mesures pour faire face à la crise que nous avons traversée, au sens où, si on compare par exemple avec les États-Unis, qui n'y ont pas eu recours, on voit que la situation sur le marché du travail s'est beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus profonde dégradée de l'autre côté de l'Atlantique que chez nous.
Alors on va revenir sur les États-Unis dans un instant, mais d'abord il faut peut-être préciser, Didier Demazière, que les entreprises ont déposé des demandes de chômage partiel pour plus de 12 millions de salariés en France, mais elles n'ont pas toutes reçu une réponse favorable. Quels sont les critères pour qu'une demande soit acceptée ?
Les critères, en fait, pour l'acceptation du chômage partiel, c'est une baisse de l'activité, qui, pour certaines entreprises, d'ailleurs, a été une disparition pure et simple de l'activité, liée à la conjoncture sanitaire et en particulier, évidemment, le confinement. Alors, on ne sait pas, en fait, exactement quelle est la part des demandes qui ont été acceptées et pas acceptées, parce que un certain nombre d'entreprises ont fait des demandes, je dirais, de précaution, et elles n'ont pas nécessairement activé, en fait, le dispositif de chômage partiel, tant qu'elles pouvaient en fait continuer à faire travailler leurs salariés.
Alors justement, comment est-ce qu'il fonctionne ce dispositif de chômage partiel et qui est-ce qu'il concerne ? Rappelez-nous peut-être les règles qui sont celles du chômage partiel, Didier Demazière.
En fait, c'est un dispositif qui permet à un établissement qui est confronté donc à un choc conjoncturel d'éviter les licenciements économiques en demandant une prise en charge par les finances publiques de la totalité ou d'une partie, en fait, de la rémunération des salariés qui sont empêchés de travailler en raison donc de ce choc conjoncturel. Donc le coût du salaire est pris en charge par les finances publiques, donc jusqu'à un plafond, qui est un plafond actuellement de 4,5 SMIC. C'est clairement un instrument de protection de l'emploi qui mobilise en fait la solidarité nationale.
C'est un dispositif qui concerne les salariés qui ne peuvent pas travailler à distance, ceux qui sont vulnérables ou ceux qui doivent s'occuper d'un enfant, Alexandra Roulet.
Oui, c'est surtout, enfin, le principal critère, comme le disait Didier Demazière, c'est la baisse de l'activité et donc la baisse du nombre d'heures travaillées. Après, ça peut être pour des raisons, comme vous le disiez là, dans le cas précis, de garde d'enfants, etc., d'impossibilité d'effectuer son travail à la maison. Mais ça peut être, dans beaucoup de cas, parce que l'activité a totalement cessé ou en tout cas a été très fortement réduite. Et donc, c'est l'entreprise qui réduit les heures de ses salariés, même si ceux-ci auraient pu les faire. Et qui donc, en effet, les indemnise. Du point de vue du salarié, il perçoit environ 84% de son salaire net. Et en effet, le coût de ce salaire est supporté par les finances publiques et non pas par l'employeur.
Supporté par les finances publiques, mais les entreprises doivent pouvoir avancer les salaires et toutes ne le peuvent pas nécessairement, Alexandra Roulet.
Oui, donc il y a la question de la trésorerie. Alors ça, il y a aussi eu des mesures de soutien aux entreprises sous la forme de prêts et d'aides justement face à ces problèmes de trésorerie. Par exemple, ne pas avoir à payer les charges immédiatement ou aussi ne pas avoir à payer le loyer de l'entreprise immédiatement. Donc il y a aussi eu des aides pour faire face à ces problèmes de trésorerie. Bon, ça n'empêche qu'il y a bien sûr des entreprises, notamment évidemment les plus petites, qui sont confrontées à des problèmes très très sérieux. Mais par exemple, les grandes entreprises ont généralement l'argent pour avancer quelques mois de salaire.
Au cours du mois d'avril, selon le ministère du Travail, 8,6 millions de salariés étaient en chômage partiel. Cela représente un tiers des salariés français. Et vous le disiez, Alexandra Roulet, effectivement, la France n'est pas le seul pays en Europe à avoir mis en place ce dispositif. Mais est-ce que le dispositif français est le plus généreux ?
Alors, le dispositif français, l'État rembourse 100% du salaire qui est versé donc aux salariés en chômage partiel, tandis que dans beaucoup de pays européens, c'est 60%, 70%, 80%, ça varie selon les pays. Et donc là, par exemple, l'État a annoncé qu'a priori, au mois de juin, il ne prendrait plus en charge que 85%. Donc ça, c'est plus dans la lignée de ce que font les autres pays européens, c'est-à-dire qu'il y a quand même 15% qui seront, à partir du mois de juin, à la charge de l'employeur. Et dans les autres pays européens, c'était déjà le cas qu'une petite partie du salaire était encore à la charge de l'employeur.
On entendait Emmanuel Macron dire que ce dispositif avait été copié sur l'Allemagne, mais le plafond est beaucoup plus élevé en France, par exemple. Vous parliez donc de 4,5 fois le salaire minimum. C'est plus élevé qu'ailleurs en Europe, Didier Demazière.
C'est effectivement plus élevé, mais surtout, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est l'ampleur de l'effort qui a été produit, en fait, par l'État pour éviter, en fait, des disparitions d'emplois et des licenciements, hein. 8 400 000 salariés concernés, c'est vraiment considérable, hein. Si on compare avec ce qui s'est passé lors de la crise de 2008, je crois qu'on avait un pic de 300 000 salariés concernés dans l'année 2009, alors que bon, en situation normale, on a autour de 20 000, 30 000 salariés qui sont concernés par le chômage partiel. Donc ici, avec 8 millions et demi, c'est vraiment un ordre de grandeur qui n'a absolument rien à voir, qui est totalement inédit et qui montre que le gouvernement a vraiment cherché dans l'urgence et face à une situation d'urgence à préserver les emplois.
Et vous le disiez, Alexandra Roulet, aux États-Unis, il y a 36 millions de personnes qui ont perdu leur emploi depuis le début du confinement, un chiffre qu'on peut comparer aux 40 millions de personnes en chômage partiel en Europe. Est-ce que, selon vous, l'approche européenne, donc du chômage partiel, est la plus efficace sur le plan économique ? Et si oui, expliquez-nous pourquoi.
Je pense qu'en effet, l'approche est meilleure parce que si vous voulez, bon, on pourrait dire ça revient un peu au même, au sens où, si ça se trouve, quand l'activité redémarrera, tous ces licenciés aux États-Unis vont être rappelés par leur employeur. Mais il est fort probable que les choses se passent pas exactement comme ça. C'est pas forcément une évidence et à mon avis, ça concernera qu'une partie de ces 33 millions de chômeurs aux États-Unis actuellement. Donc je pense que c'était quand même important de préserver l'emploi et de faire plutôt le choix européen qui consiste à subventionner les entreprises pour maintenir les gens en emploi. Aux États-Unis, il n'y a pas eu ce dispositif, donc les entreprises, elles ont été forcées de licencier parce qu'elles pouvaient pas payer les salaires alors que les employés ne travaillaient pas, qu'il y avait aucune demande. Et donc l'État a décidé, pour accompagner tout ça, d'augmenter un peu la générosité de l'assurance chômage. Donc l'État a versé des indemnités chômage plus généreuses aux États-Unis qu'en temps normal, du fait de la crise, pour essayer de compenser le revenu de toutes les personnes à qui on demandait de rester chez elles. Mais si vous voulez, le problème, ça va être plus compliqué de redémarrer aux États-Unis, je pense, qu'en Europe.
Les États-Unis ont mis en place des licenciements, effectivement, mais aussi des congés sans solde. Et en parallèle, il y a également un plan d'aide aux PME qui a été lancé pour protéger l'emploi. Est-ce que ces mesures, finalement, ne s'apparentent pas à des mesures de chômage partiel, Alexandra Oulé?
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des mesures de soutien aux entreprises qui sont un peu dans cet esprit-là, comme vous dites, de chômage partiel, enfin d'essayer de préserver l'emploi en aidant, en subventionnant les entreprises. Mais si vous voulez, le recours à ces dispositifs a été bien, bien moindre que ce qu'on a constaté dans les pays européens. Et ça n'a pas été le levier principal, quoi. Alors que dans les pays européens, vraiment l'outil numéro un pour lutter contre l'impact du Covid sur le marché du travail, ça a été la mise en place de mesures du chômage partiel dans des pays où ces mesures n'existaient pas forcément auparavant.
Alors si l'emploi a été, semble-t-il, préservé en Europe, est-ce qu'on peut en dire autant du pouvoir d'achat? Selon une enquête réalisée par la CGT, 56% des salariés en chômage partiel ont perdu des revenus, à commencer par les salariés qui ont les revenus les plus faibles. Quels sont les enseignements que l'on peut tirer de cette enquête, Didier Demazière?
D'abord, je voudrais souligner que les pertes de pouvoir d'achat ne concernent pas uniquement les salariés, mais elles concernent aussi, et souvent bien plus, les travailleurs qui ne sont pas salariés. Alors, soit parce que il s'agit des travailleurs indépendants ou des artisans, des personnes qui sont à leur compte ou qui ont un ou deux salariés et qui se trouvent dans une situation un peu paradoxale d'avoir finalement des salariés qui sont protégés par le dispositif du chômage partiel, alors que eux, en tant qu'indépendants, ne bénéficient pas des mêmes protections. Et puis, ça concerne aussi, bien sûr, l'ensemble des nouvelles formes d'emploi autour de l'auto-entrepreneuriat, de la micro-entreprise, donc là aussi, où les protections sont moindres. Donc, les pertes, en fait, de pouvoir d'achat et de revenus, elles sont assez aisément calculables pour ce qui est des salariés. Elles sont beaucoup plus difficiles à appréhender, mais sans doute beaucoup plus importantes. En tout cas, on peut faire cette hypothèse-là pour les travailleurs qui ne sont pas salariés.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises n'ont pas compensé le manque à gagner pour les salariés, Alexandra Roulet.
Oui, alors, je pense que le point de Didier Demazière est vraiment très important. C'est-à-dire que pour les salariés, bon, on peut dire qu'en moyenne, ils ont perçu 85% de leur salaire net, ceux qui étaient mis au chômage partiel. Donc, en effet, ça fait une baisse de 15% de revenus. Mais je pense quand même que dans beaucoup de cas, les dépenses ont aussi baissé. Parce que quand on est coincé chez soi, il y a beaucoup de dépenses qui, de fait, n'ont pas forcément lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, que ça n'a pas été un choc, etc. Mais très clairement, le choc pour les indépendants est beaucoup plus gros que celui pour les salariés. Et pour les indépendants, je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer la part de gens qui ont pu basculer dans la précarité du fait de cette interruption d'activité pendant 2 mois. Tous les auto-entrepreneurs que mentionnait Didier Demazière, etc., qui, au mieux, ont touché la prime qui était prévue pour les indépendants de 1 500 euros, mais qui, si ça se trouve, pour des raisons diverses, ne qualifiaient pas, etc., peuvent se retrouver dans des situations vraiment très, très compliquées.
Et selon la même étude, donc réalisée par la CGT, 31% des salariés déclarent avoir continué à travailler malgré le chômage partiel total ou l'arrêt maladie, ce qui est tout à fait illégal, Didier Demazière.
Alors oui, s'il s'agit effectivement d'un chômage partiel total, c'est tout à fait illégal. Je pense qu'il y a deux cas de figure à bien distinguer. Il y a des cas de figure de chômage partiel qui n'est pas total, c'est-à-dire en fait une combinaison d'activités professionnelles et de chômage partiel, en particulier pour des télétravailleurs qui travaillent pour des entreprises qui ont eu une baisse d'activité, mais pas une disparition de leur activité, et donc ils vont continuer à faire travailler leurs salariés à temps partiel. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait légal. Et puis ensuite, il y a effectivement le fait de travailler en dépit d'une mise en chômage partiel complète, ce qui est évidemment quelque chose qui est extrêmement difficile à évaluer et à contrôler, mais on sait bien, à travers des recherches qui portent sur le télétravail, on sait bien que le travail à distance provoque toute une série de conséquences qui sont notamment des conséquences de difficultés finalement à borner le temps de travail, à le contenir. Et on sait aussi que la distance physique n'annule pas ou n'efface pas la pression que des encadrants, des supérieurs hiérarchiques peuvent exercer sur certains salariés. Je dirais peut-être a fortiori dans un contexte où l'anxiété par rapport au devenir de l'emploi et au risque de chômage est plus importante, ce qui évidemment affaiblit considérablement les possibilités de résister à des invitations plus ou moins directives, disons, de continuer malgré tout à avoir une activité professionnelle, bien que l'on soit en chômage partiel complet.
Il faut souligner que l'entreprise peut être condamnée à rembourser ces sommes et à être privée pendant 5 ans d'aide publique et sanctionnée pénalement. C'est évidemment difficile de mesurer l'ampleur de ces fraudes, Alexandra Roulet, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur ces entreprises qui n'ont pas joué le jeu ?
Des fraudes, quand il y a un dispositif d'aide publique, il y en a toujours et ça me paraît tout à fait normal que les entreprises soient sanctionnées si elles sont prises en étant dans une situation où elles n'ont pas eu besoin de réduire l'activité de leurs salariés et elles ont quand même eu recours à ce dispositif. Donc ça, je pense que les manquements sont sanctionnés. Si vous voulez, dans toute aide publique, il y a toujours un élément de fraude. Je pense que en la matière, il y avait quand même besoin de mettre en place ces mesures. Et après, il faut faire confiance au fait que, je pense, dans une grande partie des cas, ça a quand même permis d'aider des entreprises qui étaient réellement en difficulté.
Le gouvernement a renforcé, en tout cas, la chasse aux fraudeurs, en particulier dans des secteurs où les risques de fraude sont les plus importants, les secteurs qui ont recours au télétravail, comme celui du conseil aux entreprises, par exemple. Et à partir du 1er juin, les entreprises vont prendre à leur charge une part du chômage partiel. Je vous propose d'écouter Bruno Le Maire.
Pour les employeurs, il nous semble bon, à un moment donné, de dire, écoutez, nous avons soutenu pendant 3 mois, l'État a payé l'intégralité des salaires. Vous allez maintenant prendre à votre charge une partie de ce chômage partiel. Ça veut dire qu'on sera à moins de 100%, ce sera 80%. Raisonnable, ce sera progressif. La deuxième chose sur laquelle je veux insister, c'est que le 1er juin, les salariés, eux, ne perdront rien. C'est les employeurs qui vont devoir payer un peu plus. Et la troisième chose qui est vitale, c'est que pour les secteurs qui restent fermés, l'intégralité du chômage partiel sera maintenue.
Le ministre de l'économie Bruno Le Maire, interrogé par Jean-Jacques Bourdin, le gouvernement veut donc réduire la prise en charge du chômage partiel. C'est notamment parce que le dispositif est trop coûteux, Alexandra Roulet.
C'est sûr que, enfin là, il y a des sommes colossales qui sont engagées et qui avaient besoin d'être engagées du fait de la crise sans précédent. Mais je pense que, en fait, c'est aussi parce que la situation a changé. C'est-à-dire que pendant 2 mois, il y avait tous les magasins non essentiels, toute l'activité qui était à l'arrêt, tous les chantiers qui étaient à l'arrêt ou presque, etc. Depuis le 11 mai, quand même, ça n'est plus le cas. Donc il y a des secteurs, comme le dit le ministre, qui sont toujours dans la même situation puisque l'arrêt, par exemple, des cinémas ou des bars et des restaurants est toujours maintenu. Donc pour ces secteurs, je pense que le dispositif à 100% va continuer de s'appliquer. Pour les secteurs dont la situation a évolué, ça me paraît pas déraisonnable, en effet, de dire on va progressivement se retirer un petit peu, c'est-à-dire que l'État continue quand même d'assurer 85% du coût salarial des salariés en activité partielle pour s'adapter à une situation qui a un tout petit peu évolué.
On a pu entendre certains économistes estimer que si l'objectif de cette réduction du remboursement du chômage partiel était la cherté de ce dispositif, je rappelle qu'il pourrait coûter plus de 3 points de PIB à l'État selon la société de gestion UBS, eh bien dans ce cas, ça ne valait pas le coup de réduire ces remboursements. En revanche, si l'objectif est d'inciter à la reprise de l'activité, là, ça se justifierait davantage, Didier Demazière ?
On a des mesures qui visent à permettre la reprise, et puis on a ensuite, avec cette mesure de diminution en fait de la prise en charge du chômage partiel, des mesures qui sont incitatives, en tout cas pour les secteurs dans lesquels la reprise est possible. Hein. On sait bien que ça ne l'est pas dans certains comme la culture ou l'hôtellerie-restauration. Ça me semble assez cohérent par rapport à la logique, disons, de déconfinement progressif que le gouvernement a mis en place.
Alexandra Roulet.
Oui, je pense qu'en fait, la plupart des employeurs comme des salariés ont envie de reprendre leur activité. Enfin, je veux dire, sauf cas exceptionnel. Je pense que quand même, enfin, par rapport à la question que vous posiez, est-ce que c'est par rapport à la cherté du dispositif ou pour inciter à la reprise d'activité? Bon, c'est probablement un peu des deux, mais je pense que c'est surtout pour alléger un peu, en effet, le poids sur les finances publiques qui est donc très lourd. On parle, comme vous l'avez dit, de 8 millions de salariés. Donc évidemment, c'est très lourd. Et accompagner, en effet, une situation qui évolue et le fait que, de fait, l'activité reprend dans certains secteurs progressivement.
Mais si les aides de l'État diminuent, l'inquiétude est grande de voir le chômage exploser dans les mois qui viennent en France. Alors, comment limiter la casse ? On en parle dans un instant.
Until we lose our way. text quiz from your magazine. You're my best friend in the world. Just like me, you don't do anything you're told. Unemployed in summertime, only just turned 21. You'll be okay. Unemployed in summertime, don't need money 'cause we young. I'll just stay awake till the morning, makeup all over my face.
Unemployed in Summertime d'Emiliana Torini sur France Culture. D'entendez-vous l'écho? Alexandra Roulet et Didier Demazière sont toujours avec nous pour parler du spectre du chômage de masse. Une inquiétude exprimée la semaine dernière par François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Vous avez déjà des entreprises qui sont sacrément secouées par toutes ces contraintes et par le fait que notre modèle économique est en train vraiment de s'affaiblir puisque nous avons moins de recettes. Et puis d'un autre côté, vous devrez maintenir des salariés en chômage partiel, mais vous serez remboursé moins que cela vous coûte. Autant vous dire que tout cela risque de se transformer très rapidement en licenciement économique et c'est une vraie crainte que nous avons, nous, entrepreneurs. Aujourd'hui, l'industrie est à peu près à 55%. L'industrie dit que à la fin de l'année, s'ils arrivent à monter à 80% de leur capacité, eh bien, ça sera déjà un bel exploit. Le bâtiment, aujourd'hui, est à peine à 20%. Et pareil, dans le bâtiment, si on arrive à atteindre les 75 à 80% dans les 6 mois, ça sera déjà un bel exploit. Le commerce, finalement, on ne sait pas trop, puisqu'on contingente la clientèle et on ne connaît pas non plus l'attitude des consommateurs. Vont-ils revenir en masse? Vont-ils acheter dans les magasins? On ne sait pas trop.
Si l'État réduit sa prise en charge du chômage partiel, Alexandra Roulet, des centaines de milliers d'emplois pourraient être supprimés?
Évidemment, il y a une crainte que l'arrêt de l'activité économique dans le monde entier pendant plusieurs mois aboutissent à une baisse de la demande et donc aussi à une baisse de la demande de travail, potentiellement des licenciements. Ça, c'est une crainte justifiée. De là à dire c'est parce que le gouvernement va réduire la prise en charge du chômage partiel de 100% à 85% que ça déclencherait une vague de licenciements, ça me paraît un peu excessif. Mais encore une fois, c'est toujours une histoire de coût-bénéfice, c'est-à-dire que il faut mettre dans la balance que ça coûte et les bénéfices. Et donc moi, je pense que c'était tout à fait indispensable pendant la période de confinement total de prendre en charge à 100%. C'était quelque chose de totalement inédit et adapté à la situation. Le fait que progressivement l'État se désengage un peu, ça me paraît quand même pas déraisonnable. Et par ailleurs, il peut y avoir des licenciements, mais c'est pas que la faute du gouvernement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi le principal problème dans l'histoire, c'est quand même que l'activité économique s'est arrêtée dans le monde entier, grosso modo, pendant 2 à 3 mois. C'est ça la principale cause d'éventuels licenciements à venir.
Mais est-ce que ce n'est pas trop tôt? Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre que les entreprises aient retrouvé un niveau d'activité satisfaisant? C'est aussi ce que souhaite le MEDEF, par exemple. Étant donné ce qu'on peut observer de la reprise de l'activité.
Oui, oui, c'est sûr. Je pense que si vous voulez, il y a eu un changement de situation, il y a des activités qui ont repris. À partir de là, ça justifie peut-être un désengagement et peut-être que c'est une erreur. On est dans une période de grande, grande incertitude. Tous les gouvernements font face à cette incertitude. Donc chaque gouvernement va un peu faire des choix. Il y a un peu de tâtonnement dans l'histoire quand même. C'est-à-dire que bien malin est celui qui peut prédire exactement ce qui va se passer et quelles mesures il faudrait prendre. Encore une fois, moi, je considère que c'est pas forcément une mauvaise chose de se désengager un tout petit peu de cette subvention à 100% du chômage partiel, compte tenu de l'évolution de la situation telle qu'on l'observe aujourd'hui.
Didier Demazière.
Ça pointe ce qu'est l'enjeu, en fait, du dispositif du chômage partiel. C'est la sortie, en fait, du dispositif. Alors, habituellement, quand on recourt à ce type de mesures dans le cadre d'un établissement en particulier, évidemment, il est relativement facile de faire un diagnostic de l'évolution de la situation de cet établissement et donc d'adapter les conditions de sortie du chômage partiel à l'évolution de cette situation. Ici, on est évidemment dans une mesure de masse, on l'a dit, plus de 8 millions de salariés, des centaines de milliers d'entreprises, de tailles très différentes, dans des secteurs qui sont des secteurs extrêmement différents et dans lesquels donc les conditions à la fois de reprise de l'activité économique, dans lequel les conditions de coûts supplémentaires liées à l'adaptation de l'organisation du travail pour respecter les mesures sanitaires, par exemple, sont extrêmement différentes, bien sûr. Donc, il est sûr que toute mesure générale va être plus ou moins ajustée ou désajustée à telle ou telle situation particulière. Ce qui est certain, c'est que pour moi, la stratégie consistant à un désengagement progressif est sans doute une bien meilleure stratégie que celle qui consisterait à faire perdurer le dispositif dans l'état actuel, 100% de prise en charge, plus longtemps, avec un désengagement plus brutal. Parce que, compte tenu effectivement du choc de ces derniers mois, les conditions de reprise de l'activité sont des conditions qui vont être extrêmement progressives. Donc ce que le gouvernement a mis en place, c'est aussi un désengagement progressif. Après, évidemment, on peut discuter du rythme, on peut discuter de ce niveau de désengagement. C'est des discussions qui sont des discussions, je dirais, un petit peu sans fin, dans la mesure où personne n'a les éléments pour dire quelle est la bonne mesure, la bonne proportion en la matière, mais dans la logique, en tout cas, ça me semble être un bon accompagnement.
Est-ce que l'une des solutions, ça pourrait être de maintenir certains salariés en chômage partiel et de remettre les autres au travail au sein d'une même entreprise ? Ça vous paraît une bonne idée, cela, Alexandra Roulet ?
Alors, bon, encore une fois, je pense que ça dépend un petit peu des secteurs et donc il faudrait, pour que ça se soit justifié, qu'il y ait des salariés qui font des tâches très différentes et donc certains pour qui une reprise totale fasse sens, tandis que pour d'autres, seule une reprise partielle soit adaptée. C'est vrai que c'est difficile de répondre dans l'abstrait. Je pense qu'il faut laisser une certaine souplesse probablement à l'employeur de décider ce qui fait sens. Et il se peut très bien, en effet, que certains salariés soient plus indispensables que d'autres dans une entreprise. C'est tout à fait possible.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, après Didier Demazière, de mettre en valeur le fait que finalement l'entreprise peut se passer de tel ou tel salarié avec une individualisation comme cela du chômage partiel ?
C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation où la plupart des entreprises, sans doute, vont mettre du temps avant de retrouver un niveau d'activité qui était le leur avant la crise sanitaire. En conséquence de quoi, un certain nombre, en tout cas, de ces entreprises vont avoir des besoins de main-d'œuvre qui vont être diminués par rapport à la situation antérieure, même si elles reprennent leur activité. Donc, à chacun, effectivement, de trouver des solutions. L'horizon étant, évidemment, un horizon de retour à un niveau d'activité antérieur, et c'est la logique du dispositif de chômage partiel, en fait, de prendre en charge des coûts salariaux en réponse à des difficultés momentanées. Toute la question, évidemment, ici, étant de savoir combien de temps ces difficultés vont durer, et la réponse est sans doute que ça va être extrêmement variable selon les secteurs, et que donc, je crois qu'il faut observer comment les choses vont évoluer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois avant de vraiment pouvoir produire des diagnostics précis et peut-être aussi ajuster de manière plus fine les mesures gouvernementales en matière d'accompagnement de la sortie de crise ou de la reprise d'activité, en tout cas avant la sortie de crise.
L'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques, s'attend à ce que la France compte 600 000 chômeurs de plus d'ici à la fin du mois de juin, soit un taux de chômage d'environ 10%. Qui est le plus exposé au risque de chômage aujourd'hui, Didier Demazière ?
On sait déjà, parce que on a déjà un petit peu d'éléments avec les statistiques précédentes, on sait déjà que une des raisons en fait de la progression du chômage, c'est la difficulté à trouver de l'emploi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les plus exposés, ça va être ceux qui n'ont pas d'emploi aujourd'hui et qui vont se mettre en quête d'un emploi. Et je pense en particulier, bien sûr, aux jeunes et surtout aux jeunes les moins diplômés qui vont se présenter sur le marché du travail, donc à l'issue de l'année scolaire qui se termine bientôt. Il faut aussi prendre en compte tous ceux qui étaient dans des situations de contrat de travail temporaire, qu'il s'agisse de CDD, de contrats saisonniers, de missions d'intérim également, et qui se retrouvent au chômage et qui vont avoir du mal à retrouver un emploi.
Près de 4 millions de personnes en CDD en France, en effet.
Bien sûr. Et puis, il va y avoir aussi des licenciements économiques, bien entendu, dont on ne peut pas, à mon avis, aujourd'hui, apprécier l'ampleur. Mais donc, il y a toute une série, en fait, de catégories de main-d'œuvre qui vont alimenter une augmentation probable du chômage. En tout cas, si l'on en croit l'OFCE, on peut faire l'hypothèse que la variable sectorielle va peser plus fortement, sans doute, que d'habitude, parce que on voit bien que les vitesses de reprise d'activité sont vraiment extrêmement différentes sont les secteurs, hein, certains secteurs de l'activité économique étant aujourd'hui encore totalement à l'arrêt.
On peut citer les premiers plans de licenciement qui commencent à tomber chez Altice, qui souffre de la perte des revenus publicitaires, l'entreprise de médias, Air France KLM évidemment, General Electric. Alexandra Roulet, sur les secteurs ou les personnes les plus exposées.
Oui, je pense que c'est une question très importante. Il va y avoir sûrement plus de licenciements qu'une année normale, mais c'est assez dur d'évaluer exactement l'ampleur. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup moins d'embauches qu'une année normale, parce que les entreprises vont faire ce qu'elles peuvent pour éventuellement préserver l'emploi, bon, avec plus ou moins de succès, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles vont pas se mettre à embaucher en masse. Donc, en effet, on en déduit de ça que les personnes les plus exposées, c'est celles qui sont en train de chercher un emploi, c'est-à-dire soit les personnes qui étaient au chômage ou en fin de contrat au moment où le confinement a été déclaré, soit les jeunes qui s'apprêtent à entrer sur le marché du travail, qui finissent leurs études cette année. Et pour ces personnes-là, la situation est quand même assez compliquée, parce que je pense que des embauches à l'automne prochain, voire même au printemps prochain, il va y en avoir très peu. Beaucoup d'entreprises, à mon avis, vont déclarer un gel des embauches à horizon 1 voire 2 ans. Donc la vraie crainte, si vous voulez, c'est le chômage de longue durée pour les personnes qui se retrouveraient au chômage ou qui étaient déjà au chômage ou qui entrent sur le marché du travail.
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a d'ailleurs fait de l'emploi des jeunes une priorité. On l'écoute.
Aujourd'hui, pour moi, dans le plan de relance, une des priorités devra être la jeunesse. Pourquoi ? Parce que si le message envoyé à notre jeunesse, c'est que pour eux, l'avenir est complètement bouché, je pense que va au-devant de catastrophes. Ils sont déjà très sensibles à la dette écologique, la dette financière est là. Au moins, il faut qu'ils puissent aborder l'avenir avec une confiance sur leur propre avenir.
Comment favoriser l'emploi des jeunes, Alexandra Roulet? Est-ce que cela passe, par exemple, par des allègements de charges sur l'embauche des nouveaux diplômés, qui est une vieille recette?
En fait, si vous voulez, bon, il peut y avoir toutes sortes de recettes pour essayer d'aider. Mais encore une fois, je pense que dans le contexte actuel, le principal problème, c'est le contexte macroéconomique, le degré d'incertitude et l'arrêt de la demande qui a eu pendant plusieurs mois et qui va probablement ne reprendre que progressivement. Donc même si on met en place des dispositifs incitatifs, les employeurs vont avoir pas très envie d'embaucher des jeunes parce que, en gros, leur carnet de commandes n'est pas rempli. Et du coup, bon, je pense que ça veut pas dire qu'il faut pas les aider, mais il faut peut-être éventuellement les aider soit carrément par du revenu, c'est-à-dire des allocations qui leur permettent de vivre pendant cette période.
Il faudrait une sorte de revenu universel pour les jeunes ?
Disons, je pense que se pose la question éventuellement d'un dispositif spécifique pour ceux qui entrent sur le marché du travail au jour d'aujourd'hui. Probablement dispositif qui pourrait aussi concerner les chômeurs actuels. Parce que d'habitude, si vous voulez, quand on parle d'assurance chômage, on essaye d'assurer un revenu aux gens, mais de faire en sorte que quand même, ils cherchent activement un travail. Donc on essaye que ça soit un peu généreux, mais pas trop. Et là, si vous voulez, on est dans une situation où même si les gens cherchent activement un travail, ils risquent d'avoir beaucoup de difficultés à en trouver. Donc l'aspect faire en sorte que les gens cherchent bien un travail, il a plus de sens parce que on est dans un cas de figure où les entreprises n'embauchent pas. Donc il faut quand même prendre ça en compte. À mon avis, il va y avoir sûrement une réflexion autour de comment ajuster l'assurance chômage pour prendre en compte ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La rendre un petit peu plus généreuse en période de crise, à un moment où, par définition, les gens vont rester au chômage plus longtemps qu'ils ne seraient restés s'ils étaient entrés sur le marché du travail il y a 3 ans. Donc c'est pas forcément augmenter forcément le montant que les gens perçoivent, mais éventuellement la durée pendant laquelle ils perçoivent les indemnités. Et en ce qui concerne les jeunes, généralement, ils n'ont pas le droit au chômage puisqu'ils n'ont pas encore travaillé. Enfin, surtout, je parle là de ceux qui entrent sur le marché du travail. Donc ceux-là, généralement, ils ont le droit à rien, enfin au RSA éventuellement. Et donc là, se pose la question d'être sûr qu'on n'ait pas toute une série de jeunes qui tombent dans la précarité.
Didier Demazière.
Je pense qu'un des problèmes majeurs, effectivement, c'est la question du revenu. En fait, pour les chômeurs qui n'ont pas de droit lié au fait d'avoir travaillé précédemment. Et je rappelle là-dessus que aujourd'hui, moins de 50% des demandeurs d'emploi, donc inscrits dans les catégories ABC, donc c'est-à-dire qui ont des obligations de recherche d'emploi à Pôle emploi, sont indemnisés au titre de l'assurance chômage. Donc on va avoir non seulement une augmentation du nombre de chômeurs, mais on va avoir une augmentation du nombre de chômeurs non indemnisés, ce qui pose de manière beaucoup plus cruciale sur le devant de la scène, la question des revenus des personnes sans emploi. Et là, je rejoins ce que disait Alexandra Roulet, ce qui aussi reformule la question du rapport entre le versement de revenus de remplacement d'allocation pour les chômeurs d'une part et l'obligation, le devoir de recherche active d'emploi d'autre part, parce que la recherche active d'emploi perdra à la fois en résultat, en efficacité, mais aussi en signification dès l'instant où le nombre d'opportunités d'emploi ne sera pas au rendez-vous. Donc là, il y a non seulement des mesures publiques d'accompagnement de chômeurs à penser, mais il y a aussi sans doute à repenser le paradigme en fait sous lequel on construit la protection des chômeurs et le couple, le tandem entre protection d'un côté et devoir, obligation, en l'occurrence de recherche d'emploi, de l'autre.
Est-ce qu'une forte augmentation du chômage risque de creuser encore davantage les inégalités? Une étude de McKinsey sur le Royaume-Uni montre que les salariés les moins payés sont les plus menacés par le licenciement, mais en même temps, l'enquête de la CGT, que je citais tout à l'heure, met en avant le fait que la peur du chômage touche autant les cadres du privé que les ouvriers et les employés. C'est le même chiffre, à peu près 30%. Qu'est-ce que ça vous inspire, Didier Demazière?
Je pense qu'il faut toujours distinguer deux choses. Il y a le risque de chômage qu'on mesure en fait par la part des chômeurs ou du chômage dans une catégorie sociale ou professionnelle ou une catégorie de population donnée. Et là, on sait bien, en tout cas pour l'instant, que le diplôme est en gros un élément de protection contre le chômage, que le fait d'avoir une position professionnelle élevée, cadre par rapport à ouvrier non qualifié, par exemple, est aussi un élément de protection. Mais cette hiérarchie des risques d'exposition, de vulnérabilité face au chômage pourrait effectivement être déformée, sans être inversée à mon avis, mais être déformée dans la mesure où certains secteurs qui utilisent une main-d'œuvre qualifiée, voire très qualifiée,
l'industrie aéronautique, par exemple, qui est fortement touchée.
Voilà, ou du secteur de l'événementiel, par exemple, aussi, qui est fortement touché, pourrait être amené donc à licencier. Du coup, ça augmente le risque chômage de, alors non pas de l'ensemble des cadres ou des ingénieurs ou des techniciens supérieurs, mais de ceux de certains secteurs. Donc ça, c'est un point. Puis l'autre point, c'est la peur, en fait, du chômage, qui est beaucoup plus partagée, disons, que le risque effectif, en fait, de chômage, et qui, cette peur du chômage est d'autant plus partagée que on se situe dans un contexte où la probabilité que le chômage augmente à l'avenir et dans un avenir proche est extrêmement importante, ce qui tranche avec ce qui était l'évolution de l'année précédente pour le DIA 8 du chômage, qui était une évolution positive dans le sens où on avait une baisse en fait, du taux de chômage. Donc, la rupture, en fait, ou l'inversion de ce mouvement de baisse, évidemment, génère, en fait, un accroissement de la preuve.
Alexandra Roulet.
Il y a aussi plusieurs choses à prendre en compte. Bon, d'une part, il y a en effet le risque de se retrouver au chômage qui peut varier selon les secteurs, selon la profession, etc. Mais il y a surtout des grandes différences dans la probabilité de retrouver un emploi. Encore une fois, c'est une chose de se retrouver au chômage, mais le principal risque, c'est celui de se retrouver au chômage et un chômage de longue durée, etc. Et donc, je pense que le diplôme est un élément protecteur pour ne pas tomber au chômage, mais il est aussi un élément protecteur pour retrouver un emploi plus rapidement. Donc, même si, en effet, comme je le disais précédemment, je pense qu'il y aura très peu d'embauches et donc même pour les gens diplômés, ça va être difficile. Peut-être que ça va être un peu moins difficile pour eux que pour des gens moins diplômés. Mais ce que je pense surtout, c'est que encore une fois, les grandes lignes de clivage au-delà de cadres et ouvriers, etc., c'est à mon avis salariés versus indépendants. Enfin, les salariés ont quand même été globalement plus assurés par l'État, etc., que les indépendants. Donc je pense qu'il va y avoir plus d'indépendants en difficulté pour s'assurer des revenus, on va dire. Et puis aussi, encore une fois, peut-être une ligne de partage un peu générationnelle. Comme on le disait, je pense que les jeunes vont être très touchés. Donc la peur doit être peut-être encore plus grande chez les jeunes.
J'ai perdu 4 mois. Alors, entre la formation, les CV que j'ai envoyés, 4 mois j'ai perdu. Ouais. Donc j'arrive à
vous dire. Après, là, l'objectif, c'est de repartir sur de la recherche d'emploi et de pas s'arrêter. Parce que bon, là, vous avez fait cette formation.
Oui, moi, dans 9 mois, je suis à la SS. Ouais. Je vais toucher 500 euros par mois. Alors, je vais faire comment avec mes 500 euros? Je fais comment pour payer toutes les factures, tout ce que je dois? Comment je fais pour vivre avec 500 euros? C'est dans 9 mois, c'est là.
Écoutez, moi, ce que je peux faire là avec vous, c'est reprendre votre CV, voir quelles sont les entreprises qu'on peut contacter, et voilà, on repart là-dessus. Oui, hein,
mais c'est à vous proposer de partir au départ, quoi.
Bah, quelque part, oui. Enfin, je vais pas vous mentir. Là,
tout ce que j'ai fait avant, ça sert à rien.
Bah, je dirais là votre formation, il aurait fallu ne pas aller là-dessus, quoi. Mais après, mais, moi, je vais pas.
Mais il aurait fallu qu'on me le dise.
Extrait de La Loi du marché, le film de Stéphane Brizet, qui retrace le parcours du combattant de Thierry, incarné par Vincent Lindon, pour retrouver un emploi. Alors que faire pour éviter des destructions massives d'emplois? Il faudrait par exemple faciliter la réallocation de la main-d'œuvre vers les secteurs où l'activité reprend. Alexandra Roulet.
Ça, c'est une question qui est plus générale, qui est que c'est de plus en plus important dans l'économie telle qu'elle évolue depuis maintenant plusieurs décennies, de permettre des réallocations sectorielles de main-d'œuvre faciles. Mais enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est-à-dire que former la main-d'œuvre à d'autres secteurs alors que la personne a travaillé 25 ans dans un secteur, c'est compliqué. Et dans le cas du coronavirus, je sais pas si c'est forcément la meilleure chose à faire, parce qu'on n'est pas forcément dans des changements structurels, mais plutôt dans un, quand même, on a eu un arrêt temporaire, conjoncturel. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait travaillé 30 ans dans l'aéronautique, qui se voit maintenant licencié ou en difficulté, ça veut pas dire que l'aéronautique est sans avenir. Ça veut dire que l'aéronautique a été très durement frappée par la crise actuelle, mais c'est conjoncturel. Donc ça nécessite pas forcément de repenser complètement toute la, les secteurs en demande, etc. Si vous voulez, les compétences qui sont structurellement plus en demande sur le marché du travail dans le monde d'aujourd'hui qu'il y a 20 ans vont rester les compétences un peu importantes. Voilà, je pense que les réallocations sectorielles ont du sens à l'échelle du temps long, mais pour faire face à la crise du coronavirus, je pense que c'est peut-être pas le meilleur outil.
Et c'est également votre avis pour la mobilité géographique qui pourrait permettre une meilleure rencontre peut-être entre demandeurs d'emploi et entreprises, mais peut-être pas dans le cas précis de la crise sanitaire qu'on traverse actuellement, Alexandra Roulet.
Alors là, encore une fois, bon, ce qui est compliqué, c'est que tous les pays et au sein des pays, toutes les régions ont été globalement touchées. C'est-à-dire que par exemple, quand on prend la fermeture des restaurants, du tourisme, des cinémas, etc., ça a concerné toute la France. Et donc, c'est pareil, oui, la mobilité géographique en temps normal, je pense que c'est un outil qui peut être intéressant, encore qu'il soulève des difficultés, mais enfin, théoriquement en tout cas, qui peut être intéressant. Mais là, dans le cas précis, c'est dur de dire exactement qu'il va y avoir des régions avec tout d'un coup plein de créations d'emplois par rapport à d'autres régions. Je pense que les régions les plus dynamiques avant risquent d'être peut-être les régions qui vont reprendre le plus vite, et celles qui étaient déjà avec un chômage de masse, des régions qui vont aussi mettre plus de temps à se relever parce que elles ont déjà une population de chômeurs avant même le coronavirus, qui possèdent peu de compétences demandées sur le marché du travail. Et donc ça, c'est des espèces de difficultés structurelles qui vont perdurer au-delà de la crise qu'on a connue cette année.
Ce qu'il faut peut-être préciser, Didier Demazière, c'est que avant même que n'arrive la crise du coronavirus, la France n'avait pas retrouvé son niveau de chômage d'avant la crise financière de 2008. Donc il y avait déjà une difficulté importante de rencontre entre l'offre et la demande d'emploi.
Oui, c'est vrai, mais cette difficulté importante, alors qui est à la fois une difficulté de rencontre, mais aussi qui est un déséquilibre quantitatif entre l'offre et la demande, c'est quelque chose qui est beaucoup plus structurel en France, dans le sens où ça dure depuis très longtemps. C'est-à-dire, si on prend le milieu des années 80, donc ça nous fait quand même ça 35 ans de regard, on voit que le taux de chômage a toujours été supérieur à 7%, et donc quand même assez élevé, très souvent supérieur à 8%, à part quelques années, je dirais, un petit peu exceptionnelles sur ces 35 années. Donc on est quand même en France dans une permanence de niveau très élevé de chômage, et plus élevé en tout cas que la moyenne européenne. Alors est-ce qu'il faut appeler ça un chômage de masse? J'en sais rien, mais en tout cas on a un niveau de chômage élevé qui est permanent, avec des fluctuations extrêmement fortes, avec des variations entre le niveau bas de 7% et puis un niveau haut qui est autour de 11%, mais quand même. Donc on voit que le chômage, c'est un phénomène vraiment structurel de long terme dans le cas de l'économie et de la société française, et que la crise conjoncturelle, en tout cas pour le moment liée au Covid-19, est une crise qui va avoir des effets d'accroissement à court terme du chômage très probablement, mais qui de ce point de vue-là quand même ne tranche pas radicalement par rapport aux évolutions qu'on a connues au cours des dernières décennies.
Alexandra Roulet.
Je suis d'accord qu'il y a ce niveau très élevé du chômage. On a parfois parlé de préférence française pour le chômage. Et il faut rappeler que, bon, pour les très diplômés, on est quasi au plein emploi. Le problème du chômage, c'est quand même essentiellement un problème pour les personnes peu qualifiées. Et malgré toutes les mesures qui ont été prises pour essayer de faire baisser le coût du travail, etc., d'assouplir la réglementation et compagnie, on est quand même dans une société où les personnes peu qualifiées ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Et ça, c'est des problèmes de fond qui vont perdurer indépendamment de la crise liée au coronavirus, qui ne va faire que potentiellement aggraver la situation. Donc ça, c'est sûr. Après, sur votre question de désajustement entre offre et demande, oui, c'est vrai qu'il y a, c'est pareil, il y a, c'est quelque chose d'assez structurel. Il y a toujours ce qu'on dit en France, les emplois non pourvus.
Mais ce n'est que quelques centaines de milliers d'emplois par rapport aux millions de chômeurs.
Exactement. Il y a, mettons, 3 millions de chômeurs en catégorie A et 300 000 emplois non pourvus. Donc on voit bien que même si ces emplois étaient pourvus, ça ne permettrait pas du tout d'absorber tous les chômeurs. Mais disons qu'on a l'impression que ça paraît toujours un peu scandaleux qu'il y ait des emplois non pourvus, alors que par ailleurs, il y a énormément de chômeurs. Et encore une fois, le principal problème, c'est un désajustement de compétences entre les compétences que recherchent les employeurs et les compétences que possèdent les chômeurs. Et ça, c'est des choses assez compliquées à régler parce que souvent, c'est des problèmes dans toute la scolarité des individus. Éventuellement, on peut essayer de faire des formations sur le tard, etc. Mais ça règle pas toujours le problème en profondeur de gens qui n'ont pas réussi à suffisamment monter en qualification pour être très employable.
Mais est-ce que ce n'est pas normal, Alexandra Roulet, pardon de vous interrompre, mais qu'il y ait quelques dizaines ou quelques centaines de milliers d'emplois non pourvus? Est-ce que ce n'est pas inévitable?
Oui, parce qu'il y a des frictions, ça prend du temps. Mais si vous voulez, il y a quand même une proportion. C'est-à-dire, oui, qu'il y ait des emplois non pourvus, qu'il le reste. Mais si vous voulez qu'il y ait des employeurs, comme c'est le cas, qui pendant un an cherchent quelqu'un dans un poste et qui finalement retirent leur offre d'emploi parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le candidat, c'est quand même pas super quand on voit par ailleurs le taux de chômage qu'on a. On se dit qu'il y a quand même un levier possible. Mais ça, encore une fois, c'est des tendances beaucoup plus structurelles qui sont liées aux compétences, aux formations et qui sont très différentes des causes actuelles du chômage qui s'annoncent, des gels des embauches et des éventuels licenciements qui sont beaucoup plus liés à un choc conjoncturel, de baisse de la demande agrégée, etc. Donc si vous voulez, ce choc actuel va venir renforcer des tendances préexistantes qui n'étaient pas forcément très favorables, mais il est de nature différente. Et il faut quand même noter que sur les problèmes structurels qu'on vient d'évoquer, il y a quand même eu des essais pour essayer d'alléger ces problèmes, notamment les lois travail, etc. Et on était plutôt sur une dynamique de baisse du chômage. Donc encore une fois, c'est toujours un peu dur d'attribuer des fluctuations du chômage à des politiques qui viennent d'être décidées. Mais disons qu'on était plutôt quand même sur une trajectoire positive de baisse du chômage. Et là, on a un coup de massue qui est lié à ce gros choc global à l'échelle de la planète, macroéconomique, conjoncturel, de baisse de la demande et d'arrêt de la production pendant plusieurs mois.
Face au risque d'une explosion du chômage en France, est-ce qu'on pourra faire l'économie d'un nouvel assouplissement du droit du travail? Alors, on peut parler d'assouplissement, on peut parler de détricotage, ça dépend d'où l'on se situe, mais un assouplissement qui est en tout cas déjà commencé, mais de façon temporaire, Didier Demazière.
Je ne sais pas, en tout cas, ce qui est certain, c'est que va se poser la question des réponses qu'il convient de formuler et de mettre en œuvre face donc à une reprise du chômage. Reprise du chômage donc après une baisse, qui est un scénario relativement répétitif en fait, hein, dans les dernières décennies. Moi, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que on voit dans les médias des prises de position qui sont des prises de position assez contrastées, incompatibles et opposées, on pourrait dire, sur les réponses qu'il conviendrait de mettre en place pour tenter de juguler ce qui apparaît comme une évolution très probable, qui est une remontée du chômage.
L'un des débats porte notamment sur le temps de travail. Est-ce qu'il faut augmenter la durée du travail ou partager un travail qui se fait rare? Ça, c'est l'un des grands points de clivage actuels, Didier Demazière.
Effectivement, pour les uns, et là, c'est vraiment très, très emblématique, hein, puisque la baisse d'activité, donc, qui est liée à la crise du Covid et la déstabilisation des entreprises qu'elle augure, impliquerait plutôt qu'il faut travailler plus, peut-être aussi d'ailleurs baisser le coût du travail, alors que pour d'autres, en fait, cette crise montre au contraire qu'on ne pourrait s'en sortir qu'en partageant l'emploi et donc en travaillant moins, parce que l'enseignement de la période actuelle serait que finalement le plein emploi, hein, ce mirage du plein emploi, c'est encore un peu éloigné et que donc il faut en quelque sorte changer de logiciel pour répondre à cet enjeu. Donc là on a des positions, disons, qui sont des positions antagoniques, mais on peut les trouver aussi sur d'autres questions, hein. On va les trouver probablement sur la question de l'indemnisation des chômeurs dont on a un petit peu parlé et donc sur le devenir de la réforme de l'indemnisation du chômage, par exemple.
Avant de venir à cette question de l'indemnisation, peut-être sur le temps de travail, Alexandra Roulet.
Oui, je pense qu'encore une fois, on est confronté au problème de l'hétérogénéité de cette crise et qui a frappé différemment différents secteurs, etc. Donc sur le « faut-il travailler plus » ou « faut-il partager un temps de travail réduit », je pense que ça dépend vraiment des cas de figure et que dans la mesure du possible, il faudrait que les employeurs en concertation, et c'est là que c'est difficile, avec leurs salariés, puissent s'adapter à la spécificité de leur situation. C'est-à-dire que ça me choquerait pas du tout que certains établissements essayent de travailler plus cet été pour, entre guillemets, compenser. Mais attention, à condition que ce soit pas l'employeur qui le décide unilatéralement et qu'aucun salarié ne soit d'accord. Par exemple, il faudrait que dans ce cas-là, les salariés soient évidemment payés davantage ou intéressés d'une façon ou d'une autre au gain que cela pourrait provoquer. Et puis, on peut imaginer d'autres cas de figure où l'activité ne reprend pas encore, ou beaucoup plus doucement, et dans ce cas-là, il y a toujours un nombre d'heures réduit, et on essaye de les répartir entre les différents salariés, et on est dans une logique de partage d'un temps de travail réduit. Mais encore une fois, je pense que c'est très très difficile d'apporter des réponses générales. Ce qui est très important, c'est à la fois de s'adapter aux spécificités des différents secteurs, et même entreprises, parce que la différence grande versus petite entreprise est à mon avis fondamentale dans la capacité à affronter cette crise, mais aussi de faire en sorte que les décisions soient prises dans la mesure du possible en concertation.
L'Institut Montaigne, qui est un think tank libéral, propose de supprimer des jours de congé et d'étendre les horaires des services publics comme réponse à la crise actuelle. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pointé par un certain nombre de personnalités à gauche de détricotage de ce droit du travail qui s'inscrive de façon pérenne, Alexandra Roulet ?
Permettez-moi, mais c'est un peu idiot comme mesure. C'est-à-dire que je trouve que, en fait, encore une fois, il faut quand même avoir en tête qu'on est dans une crise conjoncturelle. Donc évidemment qu'elle va peut-être s'inscrire dans la durée, je ne dis pas. Mais de là à dire on va changer le calendrier des jours fériés, ce qui serait donc une décision, enfin, si je le comprends, de long terme, pour faire face à la crise, ça me paraît un peu absurde. On a un calendrier qui est ce qu'il est, des jours fériés, un nombre de congés payés par an. Bon, après, encore une fois, que dans certains cas de figure, cet été, il y ait des ajustements parce que tout le monde y a intérêt, que, je sais pas moi, un magasin qui a été fermé pendant 2 mois décide d'allonger ses heures d'ouverture cet été, si c'est dans l'intérêt de tous ceux qui travaillent dans ce magasin, pourquoi pas ? Évidemment, c'est intelligent. Mais de là à prendre des mesures qui s'appliqueraient à tout le monde et qui seraient pas des mesures, comment dire, de courte durée de réaction à cette crise, ça me paraît pas une bonne idée. Je pense qu'il faut vraiment être dans le spécifique, le ciblé et la décision concertée entre toutes les parties prenantes d'un même établissement.
Il faut absolument que cela passe par davantage de dialogue social, Didier Demazière.
Oui, sans doute. Enfin, même si on sait bien que le dialogue social en France est quand même quelque chose qui est assez compliqué, et pas seulement du fait d'ailleurs hein, des partenaires de ce dialogue social, mais aussi du fait du rôle que jouent parfois les gouvernements. Mais je pense qu'il faut distinguer deux choses, en fait, hein, dans la réflexion sur les réponses. Il y a des mesures qui sont des mesures, je dirais, conjoncturelles, des adaptations temporaires, locales également. Et puis, il y a aussi un autre chantier, il me semble que ce que je prends moi comme une provocation de l'Institut Montaigne est plutôt sur ce registre-là, qui sont une réflexion sur des politiques plus structurelles, plus pérennes et plus structurantes aussi, sur le temps de travail, bien sûr, sur la gestion de l'emploi, sur la société que l'on veut.
Ce que vous dites, c'est que l'Institut Montaigne profite de la crise actuelle pour essayer de faire bouger les lignes.
Oui, tout à fait. D'un certain point de vue, je dirais, c'est de bonne guerre, et j'emploie à dessein le terme guerre, parce que il y a des lignes de front, effectivement, qui sont extrêmement différentes, et on peut, moi, oui, je dirais, espérer que dans la période qui vient, il y ait précisément une repolitisation, en quelque sorte, hein, des questions économiques, des questions de travail, d'emploi, de chômage, dans le sens d'un développement de réflexion qui interroge des options qui, jusque-là, étaient tenues pour relativement indépassables, rationnelles et efficaces, en quelque sorte.
Alexandra Roulet, vous voulez nous dire un dernier mot?
Je comprends bien la nécessité, en effet, de poser des questions de plus long terme, etc., de voir ce qu'on peut tirer comme enseignement de la crise, éventuellement de repolitiser ces débats-là. Mais je pense que là, au jour d'aujourd'hui, on est quand même un tout petit peu dans la gestion de court terme. Et donc, je ne sais pas si c'est forcément le moment de partir sur des propositions, sur le monde d'après, etc., etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste qu'il y a un temps pour tout, que là, on est encore dans la gestion de la crise conjoncturelle et que donc toutes les bonnes idées sont à prendre pour essayer d'y faire face le mieux possible, compte tenu du fait que c'est difficile, qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Et ça n'empêche pas une réflexion plus profonde, mais je pense que cette réflexion, elle doit prendre du temps. Et je ne sais pas si elle doit être faite forcément sur le mode de la provocation, mais à mon avis, voilà, il faut se laisser un petit peu le recul avant de tout de suite se lancer sur le monde d'après.
On a parlé des mesures apportées en France et des mesures qui étaient envisagées pour tenter d'éviter une explosion du chômage. Est-ce que dans une zone économique aussi intégrée que l'Union européenne, et ce sera ma dernière question, Didier Demazière, on peut imaginer une politique de retour à l'emploi à l'échelle de l'Europe?
Il faut savoir quand même que si la crise sanitaire a frappé tous les pays européens, même si c'est avec des petites différences, bien sûr, la situation de l'emploi est très différente d'un pays à l'autre. Hein. Il suffit de regarder la distribution en fait des taux de chômage qui varient en gros de 1 à 3 selon les pays. Et donc je vois mal en fait des politiques coordonnées, si ce n'est peut-être dans la continuité de ce qui était fait précédemment, c'est-à-dire dans cette idée, par exemple, que il faut à la fois tenter de distribuer des revenus aux chômeurs, mais pas trop, et en même temps les inciter fortement à une recherche active d'emploi, mais je vois pas au niveau européen des débats qui seraient des débats beaucoup plus fondamentaux sur le temps de travail, sur la façon de répartir l'emploi, sur la façon de répartir le chômage aussi, ce qui est une autre manière finalement de formuler cette question, ou bien encore sur la question par exemple du coût du travail, c'est-à-dire en fait des cotisations sociales, puisque on a quand même une sorte de concurrence larvée au sein de l'Europe pour diminuer le coût du travail en fait. Donc une coordination, je le vois très très mal en fait.
Brothers and Ideals, extrait du dernier album d'Inspecteur Clouseau. Merci beaucoup Alexandra Roulet et Didier Demazière de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je rappelle les titres de vos ouvrages respectifs. Alexandra Roulet, Améliorer les appariements sur le marché du travail, paru aux presses de Sciences Po. Et Didier Demazière, Longue durée, Vivre en chômage, un ouvrage écrit avec Marc Elbois et Jacques Mondoloni et publié aux éditions Cyros. Demain, on partira à la recherche des consommateurs disparus en compagnie de Philippe Moati et Alain Tourdjman. Mais d'abord, dans un instant, vous retrouverez la Compagnie des œuvres avec Mathieu Garrigou-Lagrange.
We were on the same road. We never knew where it would go. And now it's much we know. Of the place we wanna be. Look at us now, right here on the farm, with our music and geese, just a couple of country guys. We all learned so much, now it's so clear. All that I want is right here.
Thank you.